Bleu, RCFM.
France Bleu.
Yeah.
Help.
Help.
Alors tout le monde, nous allons jouer le jeu de Top Top.
RCFM, 17h-18h, Marie Bronzy.
Top Top.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur RCFM et dans votre émission Toc Toc. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. J'ai le plaisir de recevoir la réalisatrice Julia Lyon qui présente son film Viril, que vous avez peut-être déjà découvert, notamment dans un festival, puisqu'il a une belle vie dans les festivals et même des prix qui ont été attribués pour ce film documentaire. On en parle jusqu'à 18h. Bonsoir Julia Lyon.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous durant une heure pour parler de ce film que j'ai découvert avec beaucoup, beaucoup de plaisir. On va expliquer le commencement de l'histoire, du désir, de l'écriture, de la réalisation de ce film, puisque vous êtes directrice de casting. Mmh. Vous avez travaillé sur de nombreux films de cinéma, de télévision, sur des séries, et ce depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qui vous a donné envie à un moment donné pas d'être derrière la caméra, puisque ça vous le faites depuis longtemps, mais de réaliser un film? Est-ce que c'est né avec Lutte Jeunesse, ce travail de collaboration avec Thierry de Peretti?
Alors, oui et non, évidemment c'est bien plus ancien que ça. Le désir du film est arrivé relativement tard, en revanche le désir de ce sujet, il est vraiment très très loin, très ancien, très ancré dans mon histoire, et sans doute il remonte à toujours. J'ai été une des premières étudiantes en gender studies en France, puisque quand ils ont ouvert un cycle d'études de genre, je sais pas comment on peut dire ça en français, à l'époque on appelait ça les gender studies, ça venait du Canada.
Littéralement, études de genre.
Allez. C'est ça, ouais. Mais bon, voilà, c'est le fait de pouvoir imaginer que dans l'histoire, imaginer la place de l'homme et de la femme à travers le fait que ce soit des hommes et des femmes puisse changer un petit peu
la donne.
Et moi qui faisais des études d'histoire, je me suis ruée sur ça à l'époque où ça s'ouvrait. Donc c'était une question qui m'intéressait beaucoup. Il s'avère que donc le film que j'ai fait est un film qui parle de genre en Corse, puisque ça on ne l'a pas encore dit. Et que cette question-là est une question qui me taraude. Comment on apprend à devenir une femme? Comment on apprend à devenir un homme? Par quel vecteur on apprend ces choses-là? Ça, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et quand j'ai travaillé avec Thierry, la forme que ça pouvait prendre s'est installée, effectivement. C'est révélé.
Donc c'est le sujet qui a fait la réalisatrice?
Oui.
Et pas l'inverse?
Pas l'inverse.
Alors pour la forme, en effet, c'est pour cette raison que je pensais à ce film Lutte Jeunesse qui date de 2017, casting pour le rôle principal d'une vie violente de Thierry de Peretti. Et là, on se rend compte que lorsque vous cherchez le rôle principal, vous filmez de nombreux jeunes gens et d'un coup, ça vous apparaît comme une évidence, un portrait d'une génération d'hommes à un instant T en Corse.
Oui. J'ai posté une annonce disant qu'on cherchait pour le prochain film de Thierry, pour le rôle principal pour le prochain film de Thierry, un jeune homme entre 25 et 30 ans et qui soit corse. Et on a eu énormément de personnes qui se sont inscrites. J'avais demandé à ce que chacun envoie une petite vidéo de présentation, ce que les gens ont fait massivement. J'étais étonnée que surtout les garçons qui sont réputés être un peu plus timides et réservés se prêtent au jeu avec autant de aussi massivement, puis avec autant de générosité et de simplicité. Et j'ai réuni dans des salles des groupes à chaque fois de 7-8 garçons qui ne se connaissaient pas du tout pour les faire parler de sujets qui avaient trait au film. Là, c'est pour le coup, c'était la violence, mais c'était aussi le rapport à l'engagement politique, au nationalisme, à plein de choses comme ça. Et il en est apparu que ça devenait une sorte de monographie, en fait, d'une jeunesse corse.
Vous les interviewez face caméra, c'est le cas dans Viril également, on vous entend même parfois dire « oui, ça c'est super ». Genre la fille se dit « ah, ça c'est bien pour le film ». On vous entend également parfois manquer de mots, avoir le souffle coupé, et puis reprendre pour laisser à l'aise donc les interviewer. C'est très très intéressant, et puis en même temps on se dit « il va peut-être y avoir autre chose derrière ». Est-ce que vous y pensez ?
Autre chose sous quelle forme, c'est-à-dire d'autres projets derrière, d'autres
sur la même thématique.
Alors, Je pense que j'ai pas du tout épuisé la question de la construction du genre en Corse à travers ce film-là, loin s'en faut. Et j'ai eu tellement de paroles intéressantes que le film se décline en série qui va sortir là janvier.
Ouais, oui.
Ça fait des rhizomes en fait. Il sort là en janvier, donc en DVD, le film sort plus la série, 9 épisodes de 20 minutes. Donc cette parole va continuer.
Ouais, ce sera moins un polaroid.
Surtout, je pense que la question de la Corse apparaît évidemment en filigrane dans le film, elle apparaîtra beaucoup plus comme vraiment une spécificité dans la série.
Il y a beaucoup de sujets dans ce film. Voilà, comment doit-on se comporter lorsqu'on est un homme ou un adolescent en Corse? L'histoire de la séduction homme-femme, l'histoire du comportement de la femme en société, l'histoire aussi de la sexualité, même si le genre ne détermine pas une sexualité. Il y a beaucoup beaucoup de choses, donc on comprend bien qu'il faille une série pour aller explorer donc ce sujet qui vous tenez tant à cœur. Dans un instant, nous recevrons Cécilia qui nous parlera de l'écriture inclusive. Vous allez nous aider. Parce que Viril, vous voyez l'affiche, vous allez lire viril.e.s. Mais qu'est-ce que c'est que l'écriture inclusive ? Cécilia s'y est collée, on en parle dans un instant avec elle. Et voici, tiens, un extrait de la BO de votre film. Vous avez entendu dire brésilien à l'antenne, Julie, Aliane, on parlait justement des orientations des ados, de ce qu'ils voudraient être ou ne pas être, puisque le début du film, ce sont deux ados qui s'expriment et vous leur posez la question, est-ce que c'est normal à votre âge, 11, 12 ans, 12, 13 ans, d'entendre des coups de feu, de voir des armes? Et ça a l'air très très naturel pour eux, parce qu'en Corse, il y a la chasse et puis on tire quand il y a des événements heureux, notamment là, on vient de passer la nouvelle année. Et en plus, il s'agit de votre fils.
Absolument, il s'agit de mon fils qui roule des mécaniques comme c'est pas permis. Et comme quoi, ben voilà, je pense que on a des enfants qui à l'adolescence se construisent en contre leurs parents. Et donc j'ai un enfant que j'adore, hein, que j'admire beaucoup, dont je suis très très fière, mais qui est très très viril et qui est pas, qui est pas du
Pourquoi
tout.
Pourquoi ce titre qu'on a entendu?
J'avais envie d'un morceau un peu joyeux à la fin de c'est quand même 1h15 de paroles sans pause, sans souffle, sans arrêt. Il y a aucune image de d'illustration. C'est vraiment juste de la parole face caméra.
Il y a du rire, hein. Il y a du rire, l'émotion, il y a des blagues.
Oui.
Ouais.
Mais c'est que de la parole.
C'est
quand même un dispositif qui est très, très simple. Voilà, j'ai pas du tout mis de fioritures, mis de musique illustrative ou de choses comme ça. Et donc j'avais envie de réveiller un peu à la fin, de surprendre un peu le spectateur à la fin de cette heure et quart d'écoute de parole, par une musique qui soit vraiment attrapante. Et je trouve qu'elle l'est. Et en plus, les paroles disent « c'est quand même drôle d'être un humain ». Et je trouve que c'est quand même assez drôle.
Viril, c'est le titre que vous avez choisi pour votre film. La vérité désigne les caractéristiques physiques de l'homme adulte au sens biologique, le comportement sexuel de l'homme, en particulier sa vigueur et sa capacité à procréer. Ne dit-on pas le membre viril pour désigner le pénis d'un homme? Et vous, vous rajoutez un E et un S avec l'écriture inclusive. Et donc Cécilia, bonsoir.
Bonsoir.
C'est un peu relou ce que je vous ai fait. Allez chercher de quoi il s'agissait. C'est quoi l'écriture inclusive?
Alors, on va parler d'une règle de grammaire, qui semble vieille comme le monde. Et vous l'avez entendu à l'école, j'en suis certaine. On l'a rabâchée suffisamment. Le masculin l'emporte sur le féminin. Voilà. Cela étant dit, de plus en plus d'enseignantes, de chercheurs ES, d'écrivaines ES et de responsables politiques ont décidé de remettre cette règle en cause en combattant les stéréotypes sexistes, en remaniant l'orthographe.
Donc c'est plutôt un mouvement féministe.
Oui, tout à fait. Alors, ainsi on trouve dans certains manuels scolaires aujourd'hui des nouvelles méthodes dites d'écriture donc inclusive, comme vous le disiez tout à l'heure, qui consistent à féminiser les mots en plaçant entre des points milieux, voilà, on appelle ça donc des points milieux, la terminaison du féminin. Par exemple, les différents métiers...
C'est des points tirés milieux ou des points...
Des points milieux. Figurez-vous, j'ai vérifié, j'avais un doute moi aussi, mais c'est comme ça. Point milieu. Peut-être une prochaine réforme pour changer cette appellation.
C'est un point médian en fait.
Ouais. Ah, vous voyez.
Ouais. Qui se met effectivement au milieu de la ligne et qui n'est pas sur la ligne, mais qui est au milieu de la lettre.
Milieu médian, c'est à peu près pareil. Bon, peut-être qu'on peut faire une nouvelle réforme. Donc, par exemple, agriculteur.ris.s, artisan.e ou encore docteur.e.s, évidemment. Vous l'aurez compris, l'idée est de faire en sorte que le masculin ne l'emporte plus sur le féminin au pluriel, mais que les deux sexes soient mis sur le même pied d'égalité afin de mettre un terme à la hiérarchisation, voilà, des sexes. Cela fait une quinzaine d'années que l'écriture inclusive est pratiquée en France, sans que l'on sache vraiment où est l'origine, même si, comme vous le disiez tout à l'heure, ça part quand même d'un mouvement féministe. Mais on peut quand même noter qu'en 2015, le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes défend l'écriture inclusive. Il considère en effet que les noms de métiers, les titres, les grades et les fonctions existent au féminin, et ce depuis le Moyen-Âge. Par exemple, nous écrivions jadis orgueilleux ou orgueilleuse, et qu'il n'y a donc pas de raison d'invisibiliser les femmes aujourd'hui. À noter quand même que certains noms posent problème, par exemple chef, qui a donné lieu à la création de formes féministes très diverses. La chef sans E, chef accent FE, chefesse ou cheftaine ou même chèvre. Bref, on ne sait plus ce qu'il faut écrire. Donc peut-être.
Pourquoi pas chèvre, ouais, aussi.
Chèvre. Voilà, une chèvre, pourquoi pas. Alors peut-être qu'il y aurait une autre solution, utiliser le langage épicène, c'est-à-dire des mots neutres qui ne marquent ni le féminin ni le masculin. C'est-à-dire qu'on est totalement, c'est très tendance hein, d'ailleurs en ce moment, la neutralité. Alors certains trouvent ça futile, quand d'autres trouvent ça que c'est capital. Nous pouvons nous poser la question, qui sont les ouvriers .e.s de ce chantier linguistique? Qu'espèrent-ils .l construire en introduisant plus de féminin dans la langue?
Et on vous pose la question, Julie. Alors, je suis évidemment une fervente défenseuse de l'écriture inclusive et de la féminisation du langage, parce qu'effectivement, je prends l'exemple ne serait-ce que du titre de mon film, inclure du féminin dans le mot viril, ça mécaniquement ouvre la pensée à un endroit auquel on ne s'attendait pas forcément à réfléchir. Effectivement, viril est un mot qu'on attribue immédiatement au masculin, alors qu'en réalité, c'est un peu compliqué de définir ce qu'est la virilité. Quand j'ai posé la question à plein de gens, mais c'est quoi pour vous la virilité? J'ai eu des réponses très très différentes. Et les vertus qu'on estime viriles peuvent se coller aussi bien à des femmes qu'à des hommes. Si c'est la force, je vois pas pourquoi les femmes. Enfin bon, bref, etc., etc.
Surtout qu'au niveau de l'étymologie, viril vient aussi de vertu. vertueux, donc qui inclut la force, le courage et la domination. Donc c'est assez ambigu tout ça.
C'est un mot très ambigu, viril. Moi j'ai toujours eu tendance quand j'étais adolescente à me dire, je pense que la virilité, je la définirais comme étant la capacité à prendre en charge l'autre, ce qui me semble être complètement féminin. Donc alors, je disais toujours la virilité est une vertu féminine. Effectivement, le fait de mettre un point E, point S à ça, et au mot viril, est déjà la possibilité de réfléchir, de mettre en route une réflexion autour de ce qui appartient au féminin et ce qui appartient au masculin. Et si ça permet quand même cette petite gymnastique intellectuelle, ben on n'a pas perdu. Si on réfléchit deux minutes, on n'a pas perdu.
Bon, ça ne s'entend pas à l'oral?
Non.
Et c'est un exercice assez difficile à choper à l'écrit, ou ça vient vite?
Moi, je ne trouve pas ça très compliqué. De toute façon, remettre en question les habitudes un peu qu'on a installées depuis très longtemps et qui remettent en question les privilèges d'un certain nombre de personnes, évidemment, c'est un exercice difficile. Personne n'y tient. Enfin, tout le monde y a trouvé son compte à peu près jusque-là, y compris les dominés. Et effectivement, j'ai l'impression que c'est compliqué de remettre en question le fait que les hommes blancs, hétérosexuels, sont les dominants de cette société, pour peu qu'ils soient riches, qu'ils soient pas handicapés, et ils sont au bon endroit, ils sont du bon côté du bâton. Quand on est une femme, c'est pas tout à fait la même chose. Quand on est, il y a plusieurs critères qui peuvent nous rendre comme des handicaps, en fait. Voilà. Alors que c'est pas censé en être.
Il fallait faire attention à quoi lorsque vous avez écrit ce film? À confondre genre et orientation sexuelle, par exemple?
Non, pour moi, la confusion est impossible. Me semblait pas possible. Et effectivement, chaque fois que des personnes que j'ai interviewées m'ont répondu par leur sexualité à la question du genre, je les ai réorientées sur la question du genre, parce que c'est pas du tout un film sur la sexualité, même si le genre est une façon d'annoncer sa sexualité. C'est-à-dire le fait d'être une fille très coquette est parfois une façon d'annoncer qu'on est hétérosexuel et qu'on s'intéresse à plaire aux garçons. C'est une façon de montrer patte blanche aussi. Le fait d'être une fille un peu masculine est parfois une façon de raconter aux autres aussi qu'on a envie de plaire à d'autres femmes. Donc le genre est aussi une construction qui sert à annoncer sa sexualité, son désir en tout cas. Mais c'est très réducteur de le dire comme ça. Je crois que ce à quoi il fallait faire très attention, c'était de surtout pas enfermer les personnes. C'était la responsabilité que j'avais à donner la parole à des gens. C'est-à-dire que quand on parle, quand on est face à un micro, et Marie, vous le savez très bien, les gens qui sont en face n'ont pas tellement l'habitude de réfléchir au moment où on parle, on est un peu surpris par le micro, on est un peu ému par ça, et parfois on se met à dire des choses qu'on ne devrait pas dire, qu'on regrette un peu d'avoir dites, ou qu'on aurait formulé autrement. Ma responsabilité la plus importante, elle était de ne pas trahir les gens qui me parlaient.
L'utilisation de codes excessivement genrés, qui sont normalisés, ça, on l'entend, mais ça ne fait pas un sujet. Ce qui est intéressant, me semble-t-il, dans votre film, c'est comment vit-on avec notre héritage, ce qu'on nous a appris, ce qu'on a glané, ce qu'on a reçu par rapport au regard de l'autre. Et là, souvent, les interviewés sont même surpris et livrent des choses qu'ils ne pensaient pas dire, qu'ils ne voulaient même pas dire. Et c'est assez intéressant parce que ça fait avancer l'affaire. Et c'était ça le but aussi.
C'était absolument ça le but. Moi, j'avais pas du tout envie d'interviewer juste la marge, ou juste la norme. J'avais vraiment envie de pouvoir interroger plein de gens différents, des gens qui se situent vraiment les deux pieds dans la norme, et des gens qui ont le sentiment d'en être très loin, ou qui voudraient s'en tenir très loin. À l'intérieur de tout ça, les réflexions sont à des endroits qui sont très très différents. Il y a des gens qui ont vraiment déconstruit leur construction de genre, d'autres qui sont complètement soumis à la construction sociétale de leur genre, qui se sont jamais posé la question et qui découvre des choses, y compris chez les ados. Il y a une jeune fille de 13 ans qui réalise en direct que, effectivement, moi je suis très très émue par la parole de Charlotte, parce qu'elle découvre au fur et à mesure qu'elle le dit, qu'à l'école les rumeurs c'est que pour les filles, que les ragots c'est que pour les filles, et que les garçons n'ont jamais mauvaise réputation. Et au moment où elle le dit, elle le réalise, et c'est très joli de voir ça advenir.
Alors, il y a une autre chose qui est très intéressante dans ce film, me semble-t-il, Julie, c'est que la directrice de casting que vous êtes depuis des années, vous réalisez un casting lorsque vous faites ce film documentaire. Alors, il a fallu un peu oublier ce que vous aviez appris, il a fallu aller vers d'autres pistes? Comment vous avez pensé les choses?
Alors,
vous n'avez pas pensé, tiens, il passe bien la caméra, il s'exprime bien, ou vous y avez pensé? Soyez honnête.
Oui, oui, eh ben, j'y ai pas du tout pensé, et en réalité, je n'ai pas fait de casting. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que j'ai tourné pendant un an, à peu près, et j'ai demandé à un peu tous les gens que je connaissais et qui me semblaient être des gens intéressants, de venir s'exprimer devant ma caméra. Mais j'ai demandé à plein de gens, il y en a plein qui sont pas du tout dans le montage final, de venir parler avec moi. Parfois les gens viennent seuls, parfois ils sont venus en groupe à 2-3 personnes.
Parce que ça les rassure peut-être aussi.
Oui, puis parce que oui, ça les rassure. Et puis moi j'aime bien, je trouve que la parole circule bien. Je n'ai fait le casting qu'au moment du montage, en fait. C'est à ce moment-là que je réalisais que pour certaines personnes, ça passe. Enfin, la parole était plus entendable que pour d'autres, qu'il y avait des paroles dont j'avais vraiment besoin. Et donc, à ce moment-là, je suis partie au tournage de quelques images supplémentaires. Je me suis rendu compte qu'il me manquait un peu de 3 personnalités comme ci et comme ça. Donc, j'ai été les chercher là plus précisément. Mais pour le reste, vraiment, j'ai demandé à la fois aux gens que je connaissais, mais à la fois aux gens que je rencontrais. Et tiens, toi, tu veux pas venir que je te filme? On va parler pendant 1h30. Chaque session de tournage était comme ça, un moment de parole d'une heure et demie environ. Pas du tout préparé, complètement libre. Où il y a plein de personnes que je découvre en même temps que je leur parle. Donc vraiment, le casting n'a pas eu lieu avant le montage.
On retrouve des gens de cinéma, puisque forcément c'est votre milieu.
Un peu, mais pas beaucoup.
Et j'ai trouvé hyper honnête. Mais non, mais c'est drôle parce que certains, malgré eux, sont dans la posture. C'est difficile quand on a une caméra face à soi. Et je trouve que les acteurs, justement, sont hyper naturels et hyper sincères. C'est le cas de Paul Garat, qui m'a vraiment impressionnée dans son honnêteté. C'est hyper touchant, la façon dont il parle de lui, et hyper honnête, me semble-t-il. On écoute un court extrait.
Dans mon aspect physique, je vois du doute, je vois des craintes. Pas plus tard qu'hier, il y a un motard qui est venu à ma hauteur. Il était prêt à gueuler parce que bon, je l'ai pas vu arriver. J'avais la vitre baissée. Il arrivait fort, il a pilé, il m'a regardé, il m'a salué, il a accéléré. Voilà. Ça, c'est pas moi qui suis quelqu'un, c'est lui qui est personne, là, en fait. Voilà. Je vois du complexe, je vois de la crainte, je vois aussi autre chose un peu moins aujourd'hui. Ceux qui ont envie de se confronter. Lui, il sent le mal. Je veux voir si j'en suis un moi aussi. Ça existe, hein, ça, je veux dire. Je fais bander des mecs. Et pas que sexuellement, je veux dire. Surtout pas sexuellement, j'entends. Hein. Je fais bander des mecs.
Alors, c'est incroyable parce que on peut se dire, tiens, il a conscience mais c'est de sa virilité. Et en même temps, on sent dans ce témoignage, je le redis, hyper honnête, que c'est pas forcément une force.
Bah bon, Paul, c'est vraiment quelqu'un moi que j'aime beaucoup, beaucoup, que je trouve très intelligent, c'est vraiment quelqu'un que dont j'avais très très envie qu'il soit dans mon film.
Bon, il crève l'écran hein, en plus,
ah ouais,
donc ajoutons l'aspect sympathique de l'affaire.
Ouais. C'est ça. Donc vraiment, il y a au-delà de ça, c'est vrai que pour les gens du continent qui voient ces images-là, ce personnage, c'est un personnage qu'on n'a pas du tout l'habitude de rencontrer à Paris, à Lyon, enfin voilà, en Corse, on est un peu plus habitué à cette représentation-là de la virilité. Qui est vraiment très spectaculaire, en fait. Je pense que Paul est la personne la plus virile que je connaisse au monde. Mais oui, c'est quelqu'un surtout qui a une vraie déconstruction de ça, une vraie intelligence de ce qu'il représente. Mais pas seulement en termes de virilité, y compris en termes aussi de fantasmes sur des questions politiques, sur des questions d'engagement, sur des questions de force, de peur, enfin voilà, de plein de choses comme ça. J'ai toujours été très impressionnée par le recul qu'il avait sur ce qu'il représentait en fait.
Il dit à un moment donné, je propose de la sensualité et on me demande de l'amour un peu plus vache. Quelque part, il nous livre qu'il est victime un peu de ce physique extrêmement viril. Certains hommes viennent me chercher pour se confronter à moi, en fait, pour tester leur propre virilité. Donc il a une très grande conscience de l'image qu'il véhicule. Et voilà, et dans ce film, c'est ce que vous allez entendre à travers ces différents portraits. C'est vraiment très surprenant. Des aveux qui sont très touchants. Donc moi, je vous invite à aller donc à l'Ellipse ce samedi. Ce sera à quelle heure, Julie?
C'est à 21h.
À 21h, vous serez là pour répondre aux questions, évidemment, des gens qui seront dans la salle. salle. Le 7 février, ce sera la Cinémathèque de Porto Vecchio. Il y aura une projection pour les scolaires et puis une projection publique.
De mémoire, je crois que c'est 15h et 18h.
On en reparlera, ce sera le 7 février à Porto Vecchio. Et puis le 14 février, à Bastia, au cinéma Le Studio.
Absolument. J'ai pas l'horaire là, par contre, pour le moment, on le réannoncera.
Avec une association...
Alors, c'est des psychanalystes qui m'ont invité à diffuser le film, enfin, qui se sont organisés avec le diffuseur pour pouvoir le proposer au cinéma. Et effectivement, je pense que c'est un film qui peut intéresser la psychanalyse parce que c'est quand même il y a un degré de conscience et d'inconscient dans la parole des personnes interviewées que je trouve, moi, très jolie parce que, je ne dis pas que c'est joli ce que j'ai fait, je dis que ce qui est joli, c'est la manière dont les gens répondent, c'est que si vous regardez bien, au fur et à mesure, tout le monde répond quelque chose et au fur et à mesure, tout le monde dit « J'aimerais bien ne pas penser comme ça, mais je me rends bien compte que j'aimerais bien avoir déconstruit ça, j'aimerais bien m'en foutre, j'aimerais bien être plus fort que ça, j'aimerais bien... C'est pas exactement comme ça que je pense, mais c'est ça que je veux. » Bon, voilà, il y a quand même toujours cette espèce de dualité-là, de gap entre ce qu'on voudrait être et ce qu'on est, et le regard qu'on a sur soi, sur ça, le fait d'y réfléchir. Je pense que ça intéresse la psychanalyse.
Est-ce que c'est le fait de s'entendre le dire à haute voix ?
Sans doute, oui.
Qui fait cheminer l'idée de « Oh là là, j'aimerais vraiment être différent ».
Sans doute, quand on s'entend dire, quand on s'entend répondre honnêtement comme ça par une presque impulsion, par exemple, à un moment, je demande à Angela « Mais alors, comment ton désir est façonné aussi par les représentations que tu as eues du masculin en Corse ?»
Ne me spoliez pas mon extrait. Hein.
Pardon. On va l'écouter tout de suite après The Cure.
Cry avec The Cure. Nous recevons la réalisatrice Julie Allion qui nous présente le film Viril que vous pourrez découvrir au cinéma L'Ellipse. Ce sera ce samedi, donc à Ajaccio, le 7 février à la Cinémathèque de Porto Vecchio et le 14 février au cinéma Le Studio à Bastia. Voilà pour les prochaines projections. Il a une jolie vie aussi dans les festivals, ce film.
Absolument, il est passé cet été à Lame et à Pieve, et cet été déjà en Corse, mais il a été sélectionné mentionner aussi au festival Chéri Chéri, qui est un festival LGBT, donc sur les questions d'orientation sexuelle plutôt, mais y compris de genre. Il a donc été sélectionné dans ce festival-là. J'étais très fière parce que c'est vraiment un festival important pour moi, enfin vraiment. Il a été sélectionné aussi dans un festival auquel je tiens beaucoup, qui s'appelle le Festival du film de fesses. je trouve ça tellement chic. Et il a été sélectionné aussi dans un festival qui s'appelle In and Out à Nice, et où il a remporté le prix du public, ce qui est un prix quand même particulièrement touchant. D'autant qu'il était diffusé dans le cinéma Le Mercury, qui était le cinéma qui est place Garibaldi à Nice, au bout de la rue Cassini, où j'ai passé mon enfance.
Waouh !
Qui était un cinéma pour enfants quand j'étais petite. Et donc je retournais à Nice, où j'ai pas remis les pieds depuis mes 20 ans. Je remettais les pieds à Nice pour la première fois pour aller dans le cinéma où j'ai appris le cinéma, où j'ai aimé le cinéma pour la première fois.
Le projet de série qui suit donc Viril, ce sera sous quelle forme? DVD, on pourra le voir à la télé? Comment ça va se passer?
Alors, pour l'instant, il va exister dans le DVD. Ce sera une sorte de bonus. Il y a 9 épisodes de 20 minutes qui ont chacun... La série s'appelle Genre quoi? Chaque épisode aura le titre du sujet dont il traite. Donc, genre quoi l'homme corse? Genre quoi soumise? Genre quoi on ne se mélange pas? Et alors, du coup, on est un peu plus axé là sur les questions vraiment typique de territoire. Pourquoi la question de la drague en Corse est spécifique par rapport au continent? Pourquoi en Corse les filles ne payent pas, ce qui n'est plus tout à fait le cas sur le continent? Enfin, il y a des choses comme ça qui sont un peu spécifiques. Donc il y a 9 épisodes comme ça, qui donc pour l'instant vont exister en bonus sur le DVD, mais on aimerait bien qu'ils puissent être diffusés aussi à un moment sur un support internet ou télé. Effectivement, ce serait super que ça intéresse Viasté, là, par exemple, ce genre de projet.
Mmh. Viril est passé sur Viasté, là?
Non.
Pourquoi, à votre avis?
Je sais pas.
Vous l'avez proposé?
On a proposé la série, qui pour l'instant les a pas intéressés. Peut-être que c'est une histoire de moment, peut-être que ça les intéresserait à d'autres moments. On n'a pas proposé dans un premier temps le film. Moi, j'avais dans l'idée que l'histoire de la série était pas mal, parce que vraiment, elle était plus spécifiquement sur la question de la Corse.
Et le format peut-être plus accessible.
Et le format plus accessible. Ça permettait aussi de le décliner, justement, à n'importe quel horaire, et puis de pouvoir le mettre sur Internet. Bon, pour l'instant,
la messe n'est pas dite.
Messe n'est pas dite, et puis l'appel est lancé.
Nous parlions donc de ces deux femmes qui parlent de soumission. Alors, on y va un peu fort. Elles disent à quel point elles sont sensibles à la virilité corse. Elles appellent ça comme ça. Voilà, il y a un trait de caractère. Ça ne vous échappe pas, j'imagine, si on vous en parle comme ça. Et puis elles aimeraient y échapper, mais elles ne peuvent pas. Ça les fait fondre. On écoute un extrait.
Parce que pour moi, l'homme corse, il est, c'est un homme viril, mais c'est quand même quelqu'un de sensible et qui a besoin de, qui a beaucoup d'attentes, et que la femme, elle doit être là pour lui et elle doit être donc fidèle et elle doit être à la hauteur de ses attentes malgré tout. Et y a une forme de soumission dans ça.
Que tu peux assumer avec un certain plaisir?
Ouais.
Ok, ouais.
C'est énorme. C'est énorme. Et c'est une jeune femme tout à fait moderne et...
Et hyper représentative, je pense, de la façon de penser de plein de monde. Enfin, c'était très important pour moi. Évidemment, c'est un discours qui est très très loin de ma réalité, de mon quotidien. Mais c'était très important pour moi de jamais être dans le jugement et de prendre cette parole-là. Je comprends très bien qu'on puisse prendre un certain plaisir à être dans une forme de soumission. Après, il y a des choses qui ont été dites à un moment aussi et qui, sans doute, dans la bouche de ces personnes qui parlent.
Ce sont des extraits, évidemment.
Puis c'est des moments de vie aussi. Peut-être que dans un an, elle pensait autrement et qu'une heure après, elle pensait autrement. Il n'empêche que j'ai utilisé ces paroles-là parce que réellement, elles racontent quelque chose qui est aussi... sans doute, on y a toutes parfois pris un peu de plaisir à être dominée. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on s'en dégage? Comment on décide de déconstruire ça ou de mettre un coup de pied dans la fourmilière sans garder ce qui nous arrange bien, de la galanterie, du fait de ne pas payer, par exemple, de, enfin voilà, un certain nombre de choses comme ça, du fait de ça aussi des avantages d'être soumise. Il y a un livre qui m'a beaucoup éclairé pendant que je faisais ce film-là, qui est un livre qui s'appelle On ne naît pas soumise, on le devient, et qui pense la soumission comme une construction aussi. C'est aussi quelque chose qu'on fabrique, qu'on construit, qu'on alimente, qu'on... Il n'y a pas juste des dominants et des pauvres personnes qui subissent ça. Il y a aussi des dominés et qui fabriquent cette domination. Et c'est pas si grave en soi. Ça dépend ce qu'on en fait après. Tout ça.
Mais ce qui est hallucinant, c'est que dans ce sujet du genre, mais c'est carrément une pieuvre. C'est hallucinant tout ce qui se trame autour. Vous parlez de soumission. On parlera dans le film de violences faites aux femmes. Il y a plein de sujets à l'intérieur du sujet.
Il y a plein de sujets. Il s'avère que la construction de notre identité de genre, c'est quand même notre identité la plus profonde. Quand on se présente, une des premières choses qu'on avance, c'est je suis un homme, je suis une femme ou je suis une femme. Voilà.
Elle est complètement perturbée. Hein.
Ouais, c'est à cause.
Il faut qu'elle change de sujet.
Ouais. J'ai du mal moi avec mon genre.
S'attaque à un autre sujet.
Non, il faut que je creuse au contraire encore. Je crois. C'est pas encore clair. Et que tout ça peut paraître anodin ou léger ou effectivement. Pas très important ou pas si grave. Il n'empêche que la résultante de ça, c'est qu'en 2019, 149 femmes sont mortes sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons, que, y compris en Corse, 10 femmes ont été assassinées par leurs compagnons ou ex-compagnons ces 10 dernières années. Ça en fait une par an en moyenne.
Mais est-ce que c'est lié au code du genre qu'on affiche?
Qu'on affiche, non. Peut-être pas, encore que. En revanche, auquel on est soumis, les uns et les autres, c'est-à-dire la nécessité pour les hommes, ce qui est quand même une espèce de chose très compliquée aussi, d'être soumis à des codes de la virilité qui sont sans doute écrasants pour certains d'entre eux, si elle est très naturelle, elles sont très naturelles.
On l'entend dans le film.
Oui.
Je fais une parenthèse, puisqu'ils le disent très clairement, ils sont soumis à la violence dès le plus jeune âge.
Oui. Ils sont obligés de se battre. Ouais. Si on se bat pas à l'école, c'est foutu.
On est un raté,
on va s'en prendre
personne
à la gueule.
Personne ne regarde.
Ouais. Et voir, on va se faire tabasser.
Et on va se faire tabasser toute l'année, ils le disent.
Oui. Ouais. Ça veut dire que les injonctions à la virilité du côté des hommes, elles sont très destructrices. À partir du moment, alors c'est un peu théorisant hein, de le dire comme ça, mais à partir du moment où les petits garçons sont soumis à une injonction qui est très brutalisante, on va dire, pour eux, pour leur corps, dans un premier temps, et que c'est très difficile de sortir de ces codes, surtout quand on vit dans une petite île où tout le monde se connaît, où tout le monde se regarde, où quand on va à l'épicerie, elle a quelque chose à dire sur comment on se tient et ce qu'on représente, et où on est dans un système où on représente sa propre famille, parce qu'en Corse on fonctionne aussi beaucoup comme ça, et que à partir du moment où cette chose s'organise comme ça, que les filles doivent être comme ça et les garçons doivent être comme ça, chaque fois qu'on a des pulsions qui nous disent qu'on aimerait bien être un peu autrement, c'est des pulsions qui peuvent être pour certaines personnes très tyrannisantes, et qu'elles sont parfois source d'une grande, grande violence, pour soi comme pour les autres. Globalement, la plupart des femmes qui se font tabasser à mort, elles se font tabasser à mort le jour où elles disent qu'elles s'en vont. Enfin, c'est quand même toujours... Ça veut pas dire que les hommes sont méchants ou violents en soi, ça veut dire que pour eux, l'impossibilité d'envisager de perdre quelqu'un qui représenterait quelque chose comme ma femme...
De l'ordre de l'appartenance, elles le disent certaines. Hein.
Oui.
Je suis la femme d'eux.
Oui. Ouais. Je suis même la femme A.
Ou la femme A. Oui.
Ouais.
On est rarement l'homme d'eux. Ou l'homme A.
Oui, très rarement.
Ouais.
Et ils le disent aussi dans le film. Effectivement, cette chose-là.
C'est vrai, vous dites jamais, vous, il est où l'homme à mari?
Non.
Non, mais c'est intéressant ce qu'elle soulève, Océane, qui est une comédienne, justement. Elle parle d'appartenance. Et c'est lorsque cette appartenance est rompue que la violence, qui n'est pas intrinsèque, mais qui est dans l'éducation à laquelle ils sont soumis, certains hommes peuvent passer cette fameuse frontière de l'irréparable.
Oui, en venir aux coups. Et alors, les coups, c'est parfois physique, c'est parfois moral, c'est parfois... En tout cas, effectivement, quand on interroge les femmes dans la société en général, elles disent être, j'allais dire nombreuses, majoritaires, à avoir le sentiment d'avoir été brutalisées par les hommes à quelques épisodes...
Au moins une fois dans leur vie.
Au moins une fois dans leur vie. Ouais. Alors, brutaliser, ça ne veut pas forcément dire tabasser à mort. Mmh. N'empêche que à avoir pris des coups, elles sont quand même un peu une majorité.
Il y a quelques années, Jean-Pierre Lanfranc, qui écrivait cette chanson absolument incroyable, L'Amanti Maladetti, qui parle d'un couple qui a dû fuir son village. Alors là, on parle de milieu social, on parle de genre également, parce que cette chanson a été attribuée à un couple d'homosexuels, femme ou homme. Aujourd'hui, quand on interroge Jean-Pierre Lanfranc, il dit ça peut être aussi un couple hétérosexuel après réflexion, en tout cas qui ne correspond pas à à la norme et qui fuient pour finalement mourir et disparaître. Et tous leurs proches vont le regretter. On l'écoute avec la voix de Jean-Luc Géron, mis cet extrait de La Veillée, RCFM France 3 Corse VST. Là.
Per a mano agli stesso basso, fuggendo paese accanito, in la villetta si sacinati, in quella maccia ultima casa, un cuore a strappa un betto, e luci piani di lume grosso. Ma c'è un luogo in montagna che manco resta un po' resica, manco resta un po' resica. Qui ora è una via figliolato di asa notte più nera, anche lo dono ci sera messo come Bulelli condanna e campane in un scandalo si so tutte messe a suonare. Ma c'è un luogo in montagna che manco resta un un buresica suonate puro campane inferne, l'amore ne da critica e vostre voci a noi sono mute, volevo ascoltare. Non si può parlare, ma c'è un luogo in montagna che manco resta un po' resica, manco resta un po' resica. Da voi non so mai più giunti, a regali so sempre macchia, a moduli di paesani, un anno più di masprezzata, la manti malareti, nimone vuole più parlare, ma manco resta un po' resica, manco resta un po' resica.
Julia Lyon, vous avez donc interrogé plusieurs profils, femmes et hommes, et transsexuels également, j'oubliais de le dire, avec des paroles très libres, très honnêtes, face caméra, sur la virilité, sur le genre en Corse, et comment on vit son genre, et comment on vit la virilité. Alors il y a des témoignages exceptionnels, il y a des témoignages d'un homme qui a l'air de vivre dans le milieu agricole, qui a l'air d'être éleveur peut-être, ou charcutier, je l'ignore, qui a l'air un peu bourru comme ça et qui a un discours extrêmement ouvert.
C'était très beau de pouvoir imaginer que on part toujours avec des a priori, on part toujours avec des postulats qui s'avèrent pas. Mais effectivement, on a toujours l'idée que en ville, on est plus ouvert qu'à la campagne, ce qui est d'une idiotie quand même crasse. Et je trouve ça très beau que la parole la plus, enfin une des paroles les plus
ouvertes
et libres viennent de sa bouche à lui, et que d'autres paroles qui se pensent plus avancées, mais notamment par exemple chez ces nanas qui disent mais en fait j'aimerais bien être plus déconstruite que ça, mais en fait, je me rends compte que j'en suis que là. Bon, ben voilà, il y a des gens qui...
Ah, lui, c'est très clair dans sa tête.
Lui, c'est très clair.
Très sain. Il n'y a pas de posture. Voilà, on sent à quel point il aime les personnes du sexe opposé. Il aime aussi les personnes du même sexe que lui, ses amis. Il fait bien la différence. Et tout ça avec un discours extrêmement ouvert. Et puis, il y a cette histoire de payer que vous évoquiez. En Corse, on paye pour les filles, c'est comme ça. On a interrogé, donc, dans ce film viril de Julie Allione, vous avez interrogé un jeune homme de la ville, et voilà ce qu'elle répond.
Mais moi, je ne veux pas que payer. Pourquoi faire payer un peu, moi, je n'aime pas ça non plus. C'est, ça, pas ça, pas, c'est, ça, c'est les restes d'une ancienne époque que j'ai hérité, en fait, je ne sais pas pourquoi. Mais j'aime pas ça, donc une fille me paye à boire ou à manger, et ça me déplaît. J'ai horreur de ça. Après, ça peut. Je comprends que ça la gêne, mais ça me déplaît. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. J'aime pas une fille qui me paye un coup à boire, je trouve ça indécent. Je trouve que c'est malvenu. Qu'est-ce que tu fais ? C'est bizarre. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça.
Indécent, il rit à sa propre parole, de l'entendre à haute voix. Et c'est lui qui va dire « j'aimerais être différent ».
Oui, moi ça me touche beaucoup. J'aime beaucoup Fabien, c'est quelqu'un que vraiment que j'aime beaucoup. Et ce qui est très drôle, c'est que par exemple, sa parole sur le continent, parfois semble appartenir à une Méditerranée qui serait vraiment très lointaine. Et alors que parfois, on se rend bien compte que c'est quand même d'une réalité quotidienne qui nous
c'est
choque.
C'est la réalité.
Voilà, qui ne choque pas plus que ça. Et effectivement, je pense que plus on monterait dans le Nord, plus cette parole-là, elle serait lointaine en fait, géographiquement lointaine. Et c'est très beau la manière dont Fabien à la fois assume complètement d'être un mec macho, mais avec le bon sens du terme qu'il y met, c'est-à-dire à vouloir prendre en charge l'autre, hériter de quelque chose. Mmh. Et à la fois, il y pense au fur et à mesure qu'il le dit, il dit « j'aimerais bien être autrement, j'aimerais bien être plus ouvert, j'aimerais bien ne pas penser comme ça, mais je me rends compte que... »
Ma mère est vierge, j'en suis avec là. Humour.
Oui.
Il dit, c'est incroyable. Et vous lui dites, mais c'est épidermique, c'est quoi? C'est une réaction. Il dit, ben oui, j'aimerais être différent, j'aimerais penser autrement.
Mais mon fils, que ma fille
c'est la déconquête, c'est un lion.
Ouais.
Ma fille, c'est impossible, je peux pas imaginer.
Ben ouais. Ben, je trouve ça très beau que quelqu'un le dise. C'est très important. Exactement de la même manière que le fait qu'Angela dise, ben, oui, je peux prendre un certain plaisir à être parfois dominée. Je pense que si on n'accueille pas ces paroles-là, si on n'accueille pas le plaisir, l'idée du plaisir qu'on a à être dans ces schémas sociaux, c'est pas la peine d'essayer d'imaginer en sortir. Mmh. Alors, il s'agit pas de les foutre en l'air, il s'agit pas de tout déconstruire et de ne rien en garder. Il y a une certaine forme de plaisir dans les relations d'usage, comme ça, dans le commerce entre les hommes et les femmes, et dans ce qu'on nous a appris à faire pour pouvoir commercer les uns avec les autres. Il n'empêche que si une partie de cette population est les grandes perdantes de ce commerce-là, il faut qu'on en repense un peu les règles, mais en repenser un peu les règles, il ne faut pas s'en sortir sans la question du plaisir. Mmh. Le plaisir, le désir, c'est la chose quand même qui doit un peu être au centre de ces questions-là.
Alors, pour qui est très attentif, notamment ce samedi à l'Ellipse, au cinéma Ajaccio, et qui verra le film viril de Julie Allione. Vous entendrez donc l'intervieweuse, qui n'est autre que Julie Allione. Le volume de sa voix est un petit peu plus bas, puisqu'elle est en retrait. Soyez bien attentifs, parce que parfois elle se fait avoir, et elle se confie sans le vouloir dans la discussion. Et au même Fabien, elle va lui dire... mais quand elles vont au comptoir, ces filles, parce que ça te choque et tout, elles font les bonhommes. J'ai dit, mais c'est pas Julie Allione qui dit ça.
Mais c'est complètement Julie Allione. Faire le bonhomme, c'est une vraie construction sociale. Et ça n'appartient pas qu'aux hommes. Parfois, je fais le bonhomme. Je sais très bien quand je fais le bonhomme.
Et quand vous le dites, ça livre beaucoup de choses, en fait.
Oui. Mais oui, alors évidemment, je ne peux pas faire un film sur la question du genre si je n'avais pas, enfin, je ne ferais pas un film sur la question du genre si j'avais pas une histoire avec la question de mon identité de genre qui soit un peu compliquée ou complexe en tout cas.
Il n'était pas question de vous extraire du film ?
Pas du tout. Pas du tout. Pour moi, c'était très important. D'abord parce que je donne pas de leçons. Je suis pas en train d'édicter une théorie.
Donc vous ne vouliez pas juger, donc il fallait
non.
être là. Oui.
La première chose que je peux dire, il y a mon fils. La première image, c'est mon fils. Il y a moi, ma voix, mon fils. J'ai mis tout ce que je suis dans ce film, avec toute ma maladresse, avec le fait que j'aurais dû acheter un micro aussi, par exemple. et non pas un zoom. Bref, j'entends parfois pas très bien la voix. Mais il n'empêche que ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'aller me promener au milieu des gens et d'aller leur demander comment tu fais toi, comment t'as fait toi, toi l'autre avec un grand A, pour apprendre à être une femme, moi pour qui ça a été si compliqué, moi qui crus que j'étais un garçon très longtemps, qui a été identifié un garçon très longtemps, comment tu fais, comment on fait, qu'est-ce que vous dites les filles quand vous êtes entre vous, comment ils font les garçons entre eux, qu'est-ce que ça implique, est-ce que c'est naturel, est-ce qu'il y en a pour qui c'est facile, c'était ça qui m'a fait faire ce film.
Alors, lorsque vous allez voir ce film, vous allez vous poser plein de questions après, et vous allez vous dire, mais mon Dieu, mais il va falloir qu'on travaille sur plein de points, pas vraiment réglés dans notre propre identité. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir fait ce film, parce que c'est un vrai plaisir, et puis on aime aller au cinéma, et continuer à réfléchir, à se poser des questions, et on y pense à votre film après l'avoir vu. Donc on attend avec impatience cette série qui sortira en DVD. Ce sera pour quand ? C'est difficile à dater.
Non, le DVD est quasiment prêt. Je pense qu'en janvier, il sortira, quelque chose comme ça. Et sur ma page Facebook, c'est assez simple pour les gens que ça intéresserait d'en avoir les informations. Et je pense que c'est intéressant, le DVD, parce que effectivement, la série va permettre de déplier la parole un peu plus longuement.
De l'allonger un peu.
Oui, pas mal.
Donc ce sera à l'Ellipse ce samedi à Ajaccio, le 7 à la Cinémathèque de Porto Vecchio, l'après-midi et le soir, puis le 14 février au cinéma Le Studio à Bastia, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu. Vos projets ?
Alors, je refais du casting parce que c'est quand même ça mon métier, donc je fais du casting pour d'autres films. Je viens de finir le tournage du film de Thierry Depérette. Là, du coup, nous étions en tournage à Paris et nous allons, enfin j'espère qu'on va pouvoir incessamment sous peu attaquer la préparation de son prochain film, parce que Thierry ne s'arrête jamais de travailler, ce qui est fantastique. Et
c'est un compagnonnage fidèle entre vous deux.
Tellement agréable de travailler avec lui, ouais. Enfin, ça rend tellement intelligent de travailler avec lui. C'est tellement bien. Donc voilà, ça, c'est dans les tuyaux. Et puis d'autres castings, notamment pour une jeune réalisatrice qui s'appelle Lola Quivron, qui va tourner une partie du film en Corse et qui va faire un film superbe. On commence à peine la prépa, donc je peux rien en dire, mais je suis très contente de bosser avec elle.
C'est le bonheur quand ça se passe en Corse pour vous ?
Ah bah c'est le bonheur quand ça se passe en Corse, oui.
Forcément. Julie Allion, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir présenté viril.e.s. Merci Cécilia d'avoir été avec nous. Théo a réalisé cette émission, on ne pouvait pas se quitter sans M. Ah bah oui, alors là pour le genre, on est en plein dedans. Merci.
Plein dans le genre, merci beaucoup Marie.
Au revoir.
Au revoir.
De la drague, je l'avoue. Le kiki au toutou en espadrille à clous. Elle craquait sur les sièges, les pendentifs. J'ai la poupée d'E.T. dans ma Golf GTI. Elle était émotive en parlant de Jean-Yves. Un amant incompris qu'elle quitta pour Henri. Eh oui, oui, oui. Mais je me foutais de sa vie et surtout de son avis. Beaucoup moins de son envie. Tu veux pas, je reste en vie. Pourquoi cocotte, je suis un machiste. Et je sais qu'elle m'a gueule. Non, 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 il n'y a pas de l'air. Oh, machiste. Je me brise au whisky glace. Mais je courtise avec classe. Je m'allume en Malibu. Malade pas un beau quand j'ai trop bu. Ce magazine nous contamine, je préfère encore les fanzines. Pour la télé, y'a pas de photo, je préfère Hervé qui fait l'idiot. Point de vue, image du monde à votre âge, c'est immonde de vivre sur le cul de ces individus. Qui n'ont pas plus à dire que Raoul se satire, c'est un machiste à bord. Je sais qu'elle m'adore. Non, 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 y'a pas de là. Oh, ma chiste adore. Chérie, chérie, chérie. poitrine est imberbe. Il faut y remédier.
Bon, je vais demander la carte des desserts, sinon je peux pas finir un repas. Oh mais pardon, tu es diabétique toi.
Et alors, quelle importance. Je vais prendre aussi un dessert, figure-toi. Parce que grâce aux ateliers gratuits de l'association Les Diabétiques de Corse, AFD 20, j'ai appris à manger équilibré et en me faisant plaisir. J'apprends à bien vivre avec mon diabète. Je rencontre des gens formidables.
L'association Les Diabétiques de Corse, AFD 20, vous propose des ateliers gratuits comme les ateliers culinaires, de sophrologie, sur l'impact psychologique de la maladie.
Inscription et renseignements, lesdiabétiquesdecorse.com.
La météo avec Isocomble.